L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé « Faire oraison, c'est trois petits points », troisième épisode, novembre 2024, spécial Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Quand je fais oraison, j'éprouve un élan ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Dans mon sein figuré, et si vivement saisi, quand te voyant, il te plaira de te voir si accompli. Si par hasard tu ne savais pas en quel endroit me trouver, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, oh moi, ne me cherche qu'en toi.
Ce soir, je vais, non pas faire une pause, mais je vais pas faire exactement ce que j'avais prévu de faire, parce que ça me semble judicieux, d'aller écouter ce que Thérèse de l'Enfant Jésus nous partage dans ce qu'on appelle aujourd'hui le manuscrit C. Je fais cette précision, je ne vais pas non plus faire un gros commentaire comme j'ai pu le faire ailleurs, en d'autres circonstances. Je note simplement ceci, il s'agit d'un cahier, ça ressemble furieusement au cahier que j'utilise, là, un cahier de ce genre-là, qu'elle écrit à sa prieure de l'époque. On est en juin-juillet 1897, on n'est pas très loin de sa mort. Ce qu'elle sait, mais c'est pas l'objet, là, c'est pas la question. Je dis cela parce que Thérèse ne se contente pas d'écrire, elle écrit à quelqu'un. C'est très précis qu'elle écrive une lettre, qu'elle écrive un cahier, elle écrit à quelqu'un. C'est pas at large, mais c'est en général à une seule personne, même si elle se doute, elle le sait très bien pour le cahier qu'elle écrit, que ce cahier sera lu certainement par plusieurs sœurs. Elle ne pouvait pas s'imaginer que ce serait des millions de personnes. Elle commence par raconter ce qui lui est arrivé lorsque une jeune novice, en l'occurrence c'est Marie de la Trinité, vient la voir pour lui raconter un rêve dans lequel alors Marie de la Trinité parlait de sa sœur de sang, et dans ce rêve, en quelque sorte, elle se voyait parler avec sa sœur et la convaincre d'entrer au monastère, pour faire simple. C'est comme ça, c'est le donné de l'histoire. Et puis, comme on est en carême, Marie ne peut pas écrire, et en plus elle est novice, elle ne peut pas écrire à sa sœur, et Thérèse lui propose tout simplement de passer le carême à prier pour elle. Somme toute assez simple. Ô miséricorde infinie du Seigneur qui veut bien écouter la prière de ses enfants, à la fin du carême, une âme de plus se consacrait à Jésus. Attendez, il y a un petit problème. Voilà. Et un peu comme ça. Alors, ça c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est que la sœur qui s'appelait Anna, la sœur de Marie, lui écrit à la fin du carême, lui dit « Tu sais, moi aussi j'ai envie de rentrer au monastère. » Bon, très bien. Ce que Thérèse écrit, c'est « C'était un véritable miracle de la grâce, miracle obtenu par la ferveur d'une humble novice. » Il y aurait des choses à dire, mais ce qui m'intéresse, c'est que le point de départ de Thérèse n'est pas un point de départ pensé. Parce que là, c'est évident que pour Thérèse, la prière, c'est de la demande. Et une prière exaucée, c'est une prière qui obtient ce qu'elle demande. Alors, on peut faire des discussions, c'est pas ce que je voudrais faire ce soir, sur le bien fondé de cette prière, la liberté de la sœur de cette novice. C'est très intéressant, mais c'est pas ce sur quoi je veux appuyer. Ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas nous qui décidons, je répète des choses que j'ai déjà dites, mais c'est bien qu'on se leur dise, ce n'est pas nous qui décidons ce qu'est notre prière, ce qu'est la prière. Je veux dire par là que dans toutes les religions du monde, et même pour les gens qui n'ont pas de religion, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, toutes les cultures, tous les âges, tous les niveaux de fortune, de culture, tout ce qu'on veut, d'éducation, et encore une fois, y compris ceux qui n'ont pas de religion, prier, c'est demander. Prier, c'est ça inclut cela. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, d'ailleurs, je t'en prie, fais-moi la grâce d'eux. Dans notre vocabulaire, ça l'est aussi. Ce que je dis n'a absolument rien de révolutionnaire. Ce que je veux juste souligner, c'est que on aurait retrouvé des choses un peu similaires chez Thérèse d'Avila dans le chemin de perfection. Lorsqu'elle commence par dire, bah oui, comme nous, on est des moniales, tout le monde vient nous demander de prier, prier pour un procès, prier pour un champ à acheter, prier pour une maison à revendre. Et puis c'est drôle parce que ça change pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a sur la boîte vocale du couvent des Carmes? Prier pour moi parce que demain, par exemple, il y a une dame, c'est très beau, il y a une dame, une grand-mère qui à peu près à toutes les fins de session, nous confie son petit-fils qui va passer les examens et qui nous donne l'heure de l'examen, on prie en même temps. Mais c'est très beau. C'est super beau. Alors, bon, pour le coup des voitures et des procès, Thérèse d'Avila a quand même des mots assez nets en disant, bah oui, bon, il me demande de le faire, je le fais, mais je sais pertinemment que de toute façon, il ne m'exauce pas. Et puis surtout, elle dit, mais il y a peut-être des choses plus importantes. Mais elle ne le néglige pas, d'abord par respect pour les personnes, et puis parce qu'elle-même, elle fait pareil, là, et puis aussi pour cette autre raison que. Il y a quelque chose de plus profond dans le fait de demander. Bon, ok, dans le fait de demander de gagner au loto, ou là, il faut peut-être pas exagérer quand même, mais spontanément, tous et toutes, autant qu'on est, il nous arrive quelque chose de beau ou de difficile. On demande de prier pour que ça se passe bien. Je sais pas, moi, une telle va coucher, bah, prier pour que ça se passe bien. Ou bah, une telle a couché, ça s'est mal passé, et prier pour que, etc. J'ai pas de grande théorie à faire là-dessus, et je crois qu'il faut pas en faire. Ce que je veux juste souligner, c'est que la prière est tout un monde de relations avec Dieu, qu'à la fois on connaît très bien, puis qu'en fait on connaît très mal. Et ça, on ne le maîtrise pas, il ne faut pas chercher à le maîtriser. Ce qui nous rappelle aussi qu'il y a quelque chose d'assez. On peut être diplômé en théologie, on continue de prier en demandant. Hein. Je le dis, moi je ne suis pas très diplômé en théologie, mais je côtoie des gens qui sont très diplômés en théologie, je peux vous assurer qu'ils font comme tout le monde, ils prient et ils demandent. Hein. Parce que, voilà, là on touche vraiment à des choses qui sont profondes dans notre humanité. Alors, cela dit tout de même, pourquoi je dis ça, c'est que à l'époque de Thérèse, pardon, et dans la conception aussi qu'on se fait de la vie religieuse à l'époque, tout ça rentre en jeu, les moniales, les carmélites, c'est des machines à prier et ça doit mieux marcher que les autres parce qu'en plus elles ont fait tellement de sacrifices que c'est sûr que c'est plus puissant. Pourquoi je dis ça? Je continue de lire Thérèse. Quelle est donc grande la puissance de la prière? Elle s'exprime en termes de puissance. Quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Alors, derrière, il y a aussi l'image de la reine Esther, etc. Bon, c'est des choses classiques. Il reste que Thérèse, et je l'ai pris là, mais il n'y a pas que là, Thérèse est quand même, peut-être plus que nous, je ne le sais pas, en tout cas, pour elle, c'est très clair, dans son époque, dans son milieu, et puis dans sa conception de la vie religieuse, Thérèse est quand même pas mal façonnée, pas mal, j'allais dire, presque programmée par cette idée que la prière, on demande et bah, faut faire en sorte d'être exaucé. Quitte à prier plus fort. Bon, c'est un petit peu. Or, ce qui est le point de départ de Thérèse va se modifier un tout petit peu. Il n'est point nécessaire, pour être exaucé, de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, et alors là, Thérèse, elle fait non pas des points de suspension comme il y a dans vos éditions, si vous regardez un fac-similé, c'est plein, plein, plein de petits points jusqu'au bout de la ligne. C'est la façon qu'a Thérèse d'écrire. Qui dénote une pause dont on peut s'interroger sur la signification, mais là vraiment, Thérèse, il y a une suspension. Hélas, que je serais à plaindre. Plein de petits points. Pourquoi? Parce qu'elle s'explique, en dehors de l'office divin que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage. Alors écoutez bien ceci. Je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles, c'est souligné dans son texte, prière. Cela me fait mal à la tête, il y en a tant. Et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire, je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Alors, elle écrit ça à sa prieure. Elle écrit ça à sa prieure qui est une dame qui est pas de la même génération qu'elle. Hein. Marie de Gonzague, elle a dans les 60 ans à l'époque, pas une dame très commode. C'est un petit peu l'incarnation vivante de c'est quoi une carmélite à la fin du 19e siècle. Et puis c'est carré, c'est pas autre chose. Or, au travers de cette question des prières à réciter, nous, c'est peut-être moins vrai pour nous. Mais à l'époque de Thérèse, il y a une foultitude de prières, effectivement, dont certaines qui sont très célèbres, certaines qui sont très bien écrites, d'autres qui sont parfaitement bancales. Mais il y en a, c'est des joyaux de littérature, c'est des joyaux de piété, certaines sont très anciennes. Souvent, elles sont au verso. Bon, ça, c'est un faire-part de naissance, ça n'a rien à voir, mais elles sont au verso de carton, d'images cartonnées. On en a partout. Si vous ouvrez les livres de l'époque, des petites images avec des petites prières, alors c'est des petits versets de la Bible, mais souvent c'est des prières beaucoup plus longues, à tel saint, dans telle circonstance, etc. Il y en a beaucoup. Et les carmélites, les religieuses, comme d'ailleurs les gens dans le monde, en font un usage assez important. Bon, c'est ça les circonstances. Mais ce qu'il y a par au-dessous de cela, ce que Thérèse est en train d'avouer, c'est pas qu'elle y croit pas, c'est pas qu'elle le fait pas, c'est que d'une part, ça ne la rejoint pas, là on va le voir un peu plus loin dans une formule que je vais vous citer, mais aussi, elle se sent pas étrangère, c'est un peu exagéré, mais elle a du mal à se trouver ajustée au travers de cela, ajustée avec ce qu'autour d'elle on fait, et qu'elle a beaucoup fait. Je continue, vous allez voir. Je voulais quand même souligner ce que je viens de dire. Je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire. Et ça, je vais revenir là-dessus hein, dans un deuxième niveau de lecture, parce que c'est à mon avis la chose la plus importante. Sans faire de belles phrases, toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est... Attention, on va avoir une définition là. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est... Un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Et là, elle vient de nous dire, elle vient de sortir le stock, là. La prière, c'est un élan du cœur. La vie des carmélites à l'époque n'est pas vraiment propice aux élans du cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que il vous suffit de regarder l'horaire d'une carmélite, alors que ce soit Élisabeth de la Trinité ou Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du XIXe siècle, ça n'a certainement pas toujours été comme ça, et ce serait vrai dans les autres familles religieuses de l'époque, on se couche quasiment à 23 h et on se lève avant 6 h. Ouais, c'est ça. Donc ça explique d'entrée de jeu, quand vous avez intégré ça, c'est ça la réalité physique sur laquelle s'appuie. Alors, si vous avez l'habitude de dormir 6 heures par jour et que vous arrivez à faire oraison, écrivez-moi en message privé, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais savoir, parce que je peux vous assurer que dans nos couvents de carmes, et j'imagine à peu près sûr, enfin, parfois on s'en parle avec les carmélites, c'est pareil chez les carmélites, on voit tout de suite ceux qui ne dorment pas. Hein. Parce que aller essayer de tenir 1 heure d'oraison, alors que vous êtes notablement au-dessous de votre jauge de sommeil, ça n'a juste aucun bon sens. Et je peux vous assurer qu'il y a un frère qui est célèbre chez nous, pas ici, là, mais dans la province. Le frère, c'est Viens, Esprit Saint. Si. Et il y en a un deuxième qui est. Mais lui, c'est pour d'autres raisons. Lui, il ronfle. Donc non seulement il dort à l'oraison, mais il ronfle très fort. Ça, c'est un petit peu gênant pour le coup, parce que ça s'entend. Bref. Mais c'est pas pour les brocarder, c'est que bon, l'autre, le deuxième, c'est d'autres problèmes. Mais le premier, il ne dort pas. Donc c'est un frère qui est absolument génial, en plus je l'aime beaucoup. Mais ce frère ne dort pas. Il dort 5 heures par nuit. Donc c'est sûr qu'à la moindre occasion, l'oraison, il faut reconnaître que. Bah, alors après, ça dépend de comment on est fait. Qu'est-ce qu'il y a dans notre oraison? Puis ça, bah voilà, c'est chacune d'entre nous ne vit pas comme le voisin. Mais il est clair que l'oraison n'étant quand même pas une activité physique intense, et pas forcément non plus une activité mentale intense, encore une fois, ça dépend des personnes. C'est sûr que le fait de ne pas avoir de sommeil, bon, ça c'est le cas chez Thérèse. C'est aussi pour ça vous explique que lorsqu'elle parle de ses difficultés à l'oraison, y a des choses qui viennent de nous, de qui nous sommes, de là où nous. Enfin, pas là où nous en sommes, vous le savez bien que ce n'est pas un parcours là. Ah, t'en es où? Je suis à la case 14. Mais dans notre parcours de vie, etc., c'est vrai, il y a de ça, mais il y a aussi des choses qui sont purement physiques. Et si on se sent attiré à l'horizon de manière prolongée, c'est-à-dire seulement 5 minutes, mais se dire, bah, tiens, j'aimerais consacrer 15-20 minutes chaque jour à l'horizon, bah, c'est sûr que si on est toujours très en deçà du minimum de sommeil, c'est évident que ça va être plus difficile. Ça paraît stupide ce que je dis là, mais parfois j'écoute des personnes, puis je me dis. Ou des gens qui me disent, moi, je me lève à 4 heures du matin pour faire une heure d'horizon de 4 à 5. Ben, oui, et ça marche. Et il y en a, ça marche. Mais il y en a d'autres, je comprends pas, j'y arrive pas. Vous étiez couché à quelle heure la veille? Ah, vous êtes marié, vous avez un mari ou une femme, des enfants, vous êtes couché à 11 heures du soir? Ben là, pensez pas que. C'est très concret ce que je dis, mais bon. Je m'étends pas, je pense que vous avez compris. C'est un élan du cœur. Seulement, c'est pas seulement ça l'affaire. La deuxième affaire, lorsque je disais chez les carmélites à l'époque de Thérèse, c'est pas forcément ça ce qu'on privilégie. Si vous regardez aussi un horaire du Carmel à l'époque, vous verrez que la veille au soir, on lit le point d'oraison pour le lendemain. Et ça peut vous paraître surprenant, mais moi, je l'ai vécu dans une communauté de carmélites apostoliques. Pourtant, elles font pas 2 heures d'oraison par jour, là. Elles font beaucoup de prières vocales. C'est une communauté polonaise, donc c'est très ancré dans la culture polonaise. C'est pas un jugement, c'est un fait. Et la deuxième chose, c'est que j'étais surpris, à la fin de compli, on lit le point d'oraison du lendemain. C'est-à-dire que, au cas où vous auriez pas d'idée pour l'oraison, on vous en donne. C'est sympa. C'est sympa, mais seulement, ça dit bien aussi cette idée que. Et à quoi a été préparée Thérèse, ou plutôt n'a pas été préparée, au sens où Thérèse n'a jamais appris à faire oraison, et n'a que très peu partagé sur l'oraison. C'est un petit peu là que je veux en venir, c'est que tout ce que Thérèse nous dit là, elle l'a certainement assez peu partagé avec ses sœurs. Nous, là, on se parle d'oraison, on se parle d'oraison entre frères, etc., et de la vie d'oraison, mais on ne se rend pas compte que les carmélites qui sont supposés faire ça 2 heures par jour à l'époque de Thérèse, c'est pas dans les partages, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'initiation. C'est débrouille-toi, c'est parti pour 1 heure, go, vas-y, ferme les yeux, ça ira mieux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de sa vie, elle sait qu'elle va mourir, hein, à la fin de sa vie, Thérèse, elle a fait son chemin par elle-même. Alors, si on peut être aidé, c'est mieux. Il reste que elle a fait son chemin par elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle est la seule à avoir fait son chemin. À mon avis, il y en a beaucoup qui ont réussi quand même, là, manquerait plus que ça. Il reste qu'on ne s'est pas facilité la tâche. Et lorsqu'elle dit un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour, c'est pas très éloigné d'éléments qu'on trouve dans la littérature spirituelle de l'époque. Mais le cri du cœur, etc., ça fait très romantique. On est encore dans la vague romantique d'un romantisme assez édulcoré du reste, mais je ne vais pas m'étendre. Donc Thérèse l'a entendu. Seulement là, elle n'est pas en train de répéter des formules. C'est ce qu'elle vit. Elle décrit ce qu'elle vit. Elle n'est pas en train d'utiliser une formule à lire. Elle est en train de décrire ce qu'elle vit. Et c'est important parce que, on se l'est déjà dit, l'oraison, il n'y a pas de prescription. Il n'est pas prescrit pour faire oraison, pour avoir une oraison catholique et carmélitaine, de faire telle et telle chose. C'est pas prescrit. En revanche, et c'est un petit peu ce que j'essaie que nous fassions cette année, en revanche, je crois que c'est bien parfois pour soi-même de décrire ce qui nous arrive dans l'oraison. Pour réaliser que l'oraison n'est certainement pas seulement ce que je fais moi, mais ce qui m'arrive dans l'oraison. Et que il y a l'autre. Il y a le Dieu qui me parle ou me parle pas, qui est présent mais qui se présente ou ne se présente pas, etc. La Trinité Sainte est présente et elle est bien quelque part dans mon oraison. Elle n'est pas statique et muette. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, ce qui fait d'ailleurs des choses très brèves, soit dit en passant. Simple regard, élan, cri. C'est pas. Elle a d'ailleurs pas utilisé les termes de contemplation, de je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui est très direct, qui est très vif. Ces 3 points. Au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Ça, c'est important dans la vie de Thérèse, qui a quand même été formée. Là aussi, je fais court, donc peut-être un peu tranché, mais je vous assure que en creusant, c'est bien cela qu'on retrouve. Thérèse a quand même été formée, je parlais de romantisme un petit peu édulcoré à l'époque, a été formée dans l'Église catholique française de la fin du XIXe siècle, avec d'une part une bonne dose de jansénisme, ça c'est un fait, mais aussi une bonne dose d'un romantisme mal compris, qui consiste en dire que la vie ici-bas, ça vaut rien, la vraie vie, c'est après. Bon, il faut bien quelques laïcs pour refaire des enfants pour la génération suivante, qui d'ailleurs deviendront des moines et des moniales. Mais bon, la vie chrétienne la plus sûre, c'est quand même la vie religieuse. Tout cela, Thérèse le croit, hein, je n'invente rien. Thérèse le croit parce qu'elle a été formée à ça. Parce que d'ailleurs, la novice en question, elle était toute contente de dire que ça y est, une autre âme, sa propre sœur, va se consacrer à Jésus. Alors, parler à l'époque de consécration baptismale comme la consécration la plus profonde dans la vie chrétienne, c'est pas d'actualité du tout. On parle de vie religieuse, c'est ça. Et Thérèse est rentrée avec cette idée, et que d'ailleurs ses sœurs avaient aussi, elle ne l'a pas inventée, que on est là pour souffrir, puis à la fin on meurt, et puis bah, on va au ciel. Donc il y a la terre, le ciel, il y a maintenant et après. C'est une bipartition, il y a une bipartition temporelle et spatiale. Or, je laisse la bipartition spatiale, mais il y aurait des choses à dire, mais la bipartition temporelle, elle a sauté, et elle a entre autres sauté parce que c'est un cri de reconnaissance et d'amour. Donc c'est direct, c'est pas un cri de demande, hein. C'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Vous irez relire la poésie Pourquoi je t'aime au mari de Thérèse, qui est le plus beau texte qui existe, à la fois bah, poétique, oui, il est beau, il est vraiment beau, et en plus théologique sur Marie. C'est à des kilomètres, des années-lumière de beaucoup d'autres choses qui sont bof. Là, c'est assez incroyable. Et entre autres, justement, sur la question de est-ce que je l'ai rapide? Je pourrais vous en faire Je vous lis deux strophes pour vous convaincre de cela. En attendant le ciel, ô ma mère chérie, je veux vivre avec toi, te suivre chaque jour. Mère, en te contemplant, je me plonge ravi, découvrant dans ton cœur des abîmes d'amour. Ton regard maternel bannit toutes mes craintes, il m'apprend à pleurer, il m'apprend à jouir. Au lieu de mépriser les joies pures et saintes, tu veux les partager, tu daignes les bénir. C'est une révolution chez Thérèse. C'est une révolution totale. D'autant plus que la souffrance, elle, de toute façon, elle y était abonnée depuis son enfance. Donc comprendre que ici-bas, c'était la souffrance et qu'elle en aurait jusqu'à la fin de sa vie, c'était presque une évidence. Et c'est paradoxal que ce soit au moment où elle souffre quand même de la tuberculose, qu'elle se réconcilie avec une vie qui est d'abord une évidence de bonté, mais qui en même temps inclut la souffrance. On n'est pas des idéalistes, on le sait. Au sein de l'épreuve comme au sein de la joie, alors que dans le système dans lequel elle a quand même été éduquée, une prière avec souffrance vaut mieux qu'une prière sans souffrance. À tel point d'ailleurs qu'on prie pour demander des souffrances à l'époque de Thérèse. Et ça, c'est des choses qu'on trouve hein, chez elle. Et soit dit en passant, tout ce que je dis là, elle ne va pas le remettre en cause de manière systématique. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr à quel point elle se rend compte que ce qu'elle dit est non pas opposé, mais distinct et peut-être plus large, et je crois aussi plus évangélique. Que ce qu'on lui a appris. C'est pas opposé. Mais il y a quand même un élargissement et un approfondissement. Enfin, c'est quelque chose, la prière, c'est quelque chose de grand, de surnaturel. Deux adjectifs, grand, surnaturel. Et deux effets, parce que grand et surnaturel, d'accord, mais ça veut dire quoi? Qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. C'est des choses qu'elle éprouve. C'est curieux parce que elle est aussi à une époque où ce qu'on éprouve dans la prière, ça compte pas. Bah, sauf si c'est de la souffrance, ça c'est bien. Mais sinon, ça compte pas. Or là, Thérèse, elle parle de ce qu'elle éprouve. Pas de ce qu'elle pense, pas de ce qu'elle conçoit, pas de ce qu'elle dit de manière, mais de ce qu'elle éprouve. Et de ce qui l'anime. L'élan, c'est se sentir animé. C'est étonnant parce qu'en même temps, elle dit que bah, les oraisons lui étaient difficiles, etc. Mais il n'empêche qu'au travers, et alors, j'ai pas tout détaillé, mais il y a encore beaucoup d'autres raisons qui font que l'oraison est difficile, surtout lorsqu'on est 24 sœurs dans un espace assez restreint. Qu'il y a les sœurs qui... qui passent leur temps, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, qui passent leur temps à faire ça. Là, il y en a une qui fait ça constamment. C'est un peu pénible quand même. Il y en a une qui grince des dents. Il y en a une qui s'endort. Il y en a une qui n'arrête pas de bouger. Il y en a, etc. 25 dans un espace qui n'est pas bien grand. Donc il y a bien des choses qui rendent l'horizon pénible. Et pourtant, voilà ce qu'elle vit. Je continue un petit peu. Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au chœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Je ne sais pas si vous voyez la formule. Elle n'est pas interrogative, mais c'est ce qu'on appelle la prétérition en littérature. Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez, donc j'anticipe ce que vous pourriez croire, que les prières faites en commun au chœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est juste un petit indice. Thérèse a quand même conscience que ce qu'elle dit peut ne pas être compris du premier coup. Et il y a derrière la question de la dévotion. Je ne vais pas l'étendre parce que je voudrais aller plus loin. Il y aurait d'autres choses à dire. J'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux. Hein. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Il y aurait quelque chose à dire. Mais toute seule, entre parenthèses, j'ai honte de l'avouer. La récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Concrètement, c'est une discipline, un truc pour se faire mal. C'est à l'époque où on fait truc pour se faire mal en pensant que ça fait plaisir à Dieu. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Alors ça, c'est quand même très étonnant qu'elle écrive ça. Je sens que je le dis, et ça c'est important parce qu'elle s'explique, je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Faut comprendre qu'à l'époque, l'objectif, c'est pas de méditer. Aujourd'hui, nous récitons les mystères glorieux. Premier mystère, l'Annonciation. Fruit du mystère, je ne sais pas quoi. Paternoster, Quae Sincelis, etc. Ave Maria, Gratia Plena. Parce qu'en plus, je suis à peu près sûr, il faudrait que je vérifie, mais que les sœurs le récitaient en latin, quand elles étaient en communauté. Alors, bon, il y aurait des choses à dire, mais je le développe pas. Et on ne lui a pas appris à méditer le rosaire. L'idée que le rosaire soit une méditation, ça, c'est pas ce qu'on lui a appris, donc ça s'entrechoque. Parce qu'elle, c'est ce qu'elle voudrait faire. Mais ce n'est pas du tout les usages. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins, je pense que la Reine des Cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Alors là, elle parlait du rosaire. Or, chose surprenante, au paragraphe suivant, elle bifurque un peu, et à mon avis, elle revient à l'horizon. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, pardon, je récite très lentement, c'est souligné dans le texte, un Notre Père, et puis la salutation angélique. Je vous salue Marie, et je pense qu'elle dit tout ça en français. Alors, ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Chose qui se faisait en communauté. Il faut quand même se représenter. Et moi, je l'ai encore vécu dans la fameuse communauté, mais un frère là. D'abord, François-Dominique a vécu ça plus jeune au monastère, et puis un frère l'avait vu dans un Carmel. À la fin de l'office, la prieure, qui a un manuel des prières qu'elle doit lancer, lance le De Profundis, et on récite le psaume 129, tout en quittant le chœur, en s'inclinant, en passant les escaliers. Et moi, j'ai vécu ça dans un Carmel, un ancien Carmel contemplatif devenu un Carmel apostolique, où il y avait des escaliers en colimaçon large de même pour aller du chœur, donc pour le coup, j'étais au chœur avec les sœurs, à leur réfectoire. Et on priait des profondeurs, je crie vers toi Seigneur, Seigneur, c'est drôle parce qu'on est en train de descendre d'ailleurs, je crie vers toi Seigneur, puis alors il faut être attentif à réciter en même temps que les autres, il faut regarder où on marche, c'est dans le noir. Mais ça, c'est constamment à l'époque, il y a des prières pour tout, partout, tout le temps dans le cloître, en fonction des statues devant lesquelles vous passez, il y a des prières, c'est constant. Et alors, faut pas prendre ceux et celles qui nous ont précédés pour des abrutis, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on pourrait aussi, pas le justifier, mais on pourrait aussi expliquer que oui, mais. La prière, c'est pas non plus chaque mot que je passe dans ma tête. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la prière, c'est d'abord une dimension qui nous dépasse. La prière, c'est pas quelque chose qu'on démarre de zéro. Donc, lorsque Thérèse dit elle récite très lentement à Notre Père, puis la salutation angélique, elle n'est pas en train de dire que toute prière à laquelle on n'attacherait pas notre esprit, au sens de notre comprenette, n'aurait aucun sens. C'est pas vrai. Parce que nous n'arrêtons pas de prier, et notre attention, elle est comme ça. Et puis il y a des fois, enfin ça, on s'en est déjà parlé, il y a des fois, nous ne sommes pas attentifs aux mots, mais nous sommes, par exemple, on va prier à Notre Père pour la paix, tout le monde pense à la paix, plus personne ne pense aux mots du Notre Père. C'est pourtant pas absurde. C'est un petit peu pour remettre du mou là-dedans. Il reste que son expérience est la suivante. Lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, ce qui part aussi d'un autre point de vue, c'est que on lui a quand même dit que l'oraison, c'était à partir de bonnes pensées. Et il me semble que nous, ce qu'on partage à l'école d'oraison, bah, je dis pas ça parce qu'on est plus intelligent que les autres, là, mais c'est parce qu'on le partage, justement, on nous montre que l'oraison n'est pas que partir d'une bonne pensée. Parce que sinon, je crois qu'il y en a pas mal d'entre nous, ouais. Enfin, en tout cas pour ce qui me regarde, soit j'en ai aucune, soit j'en ai trop, c'est l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, ça n'aide pas beaucoup, hein. Donc, faire oraison, ça n'est pas seulement partir d'une bonne pensée. Ce que je vous disais tout à l'heure, le point d'oraison pour demain, mes sœurs, point d'oraison pour demain, puis on lit un petit extrait de je ne sais pas qui. Puis le lendemain, vous devez partir de ça, puis tâcher de. Bon, moi j'appelle ça un commentaire de texte, mais ce n'est pas forcément une oraison. Et c'est ça ce qu'elle a dans la tête. Alors, elle n'a pas complètement verbalisé le fait que l'oraison pourrait être autre chose qu'une bonne pensée. Mais elle, partant du fait qu'elle est supposée, comme les 24 autres sœurs, de partir d'une bonne pensée, et n'y arrivant pas. Mon esprit est dans une si grande sécheresse, il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, l'idée qu'on s'unirait au bon Dieu par là. Pensée, je récite très lentement à Notre Père et puis la salutation angélique. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Elle l'écrit, elle se trouve nourrie, tout simplement, sur une prière qui est franchement complètement basique, qu'on a récitée des centaines de milliers de fois. Et elle rejoint complètement Thérèse d'Avila dans le chemin de perfection, qui dit: Ah ouais, on vous supprime les livres et en plus on veut que vous priez vocalement. Mais entendons-nous bien, de toute façon, pour faire oraison, hein, il faut savoir qui on est, à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on demande. Et puis d'autre part, si vous récitez les prières, moi je vais vous montrer que les prières vocales, c'est de l'oraison, à moins que vous me disiez qu'on puisse prier les prières vocales sans savoir à qui on parle. Dans ces cas-là, j'ai plus rien à dire, ça c'est Thérèse. Thérèse est quand même beaucoup plus, pas agressive, mais il y a beaucoup de brillants chez Thérèse. Hein. Bon, c'est aussi une femme plus âgée, mais ah oui, à vous. Si vous prétendez qu'on peut prier les prières vocales sans s'inquiéter de savoir ce qu'on dit, je me tais, j'ai plus rien à dire. C'est vous les théologiens. Elle est super comique quand elle dit ça, parce qu'elle rate pas sa cible. Hein. Mais Thérèse d'Avila et Thérèse d'Enfant Jésus se rejoignent à cet endroit-là. Alors, je m'arrête, il est déjà 20 h, mais je voulais vous partager cela plutôt, et je le dis très brièvement pour le deuxième niveau que j'évoquais. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que mardi, lorsqu'on a eu le partage en communauté, c'est un des frères qui a dit ça, que je n'avais pas vu. Parce que tout ce que je viens de dire là, on l'avait tous vu, tous les quatre. Puis il dit, ce qui est étonnant, c'est que Thérèse est très sûre de ce qu'elle vit. Elle est très sûre que ce qu'elle fait, c'est oraison, que ce qu'elle fait, c'est prier. Elle en est très sûre. Alors que, d'abord, à un moment, elle se réécrit, et puis elle dit quand même des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on lui a appris. Elle est très sûre, et quand je dis sûre, c'est pas je suis sûr de la bonne réponse. C'est que elle est assurée de elle-même vers elle-même et vers Dieu qu'elle prie vraiment. Parce que c'est une fois de plus, on revient là-dessus. L'une des choses qui parfois nous est difficile, non seulement dans l'oraison, mais dans notre vie spirituelle tout entière avec Dieu, c'est hein, lorsqu'elle disait plus tôt, je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire. Il n'y a pas de correct, pas correct, comment je dois le dire, etc. Et c'est pas seulement dire, c'est la personne que nous sommes. Souvenez-vous l'extrait que je vous ai passé il y a un mois ou 2 mois. C'était Ruth Burroughs, mais elle citait une religieuse anglaise qu'elle avait trouvée. Elle la cite très longuement dans son texte. Qui dit en gros la question c'est de savoir si vous avez l'intention d'être vous-même dans la prière et plus globalement dans toute votre vie avec Dieu ou si vous êtes encore en train de chercher des assentiments, des confirmations, si vous vous cachez derrière les mots des autres, etc. Et la religieuse anglaise, elle mâchait pas ses mots, hein. Parce qu'en fait, dans notre vie spirituelle, ce qui nous est le plus difficile, parce que c'est aussi dans notre vie amicale, dans notre vie fraternelle, de famille, dans notre vie amoureuse, de couple, pour ceux et celles d'entre vous qui sont en couple ou qui l'ont été, le plus difficile, c'est d'être soi-même devant l'autre et de croire vraiment que c'est ce qu'il convient d'être. Alors, on n'est pas obligé d'être lourd envers l'autre, ça c'est autre chose, on a aussi le droit de prendre un peu sur soi. Mais il reste que la grande question, c'est au bout du bout, est-ce que je suis obligé de devenir un autre pour être aimé? Aimable et aimé. Et dans l'oraison, c'est derrière, c'est ça. Si on cherche encore l'oraison qui va derrière laquelle on va se cacher, ben, ça donne rien. Est-ce que je crois vraiment au fond, quelque chose qui est complètement dingue, c'est que l'oraison n'est pas quelque chose que je présente à Dieu, puis Dieu corrige la copie? C'est pas mal, peut mieux faire. Ou est-ce que je crois vraiment que c'est véritablement une rencontre, et pour reprendre ce que disent tous les mystiques, hommes et femmes, si c'est de l'ordre de l'amour, c'est de l'ordre de la réciprocité. Vraiment. Mais ça, je pense qu'on a toute une vie pour se convaincre de ça, et on ne s'en convaincra non pas par des raisonnements, parce que l'amour ne se prouve pas, ben, je t'aime, ah oui, prouve-le, des signes à la rigueur, mais des preuves certainement pas, mais avoir confiance en l'autre et confiance en soi-même dans cette réciprocité de l'amour. Et ça, c'est quand même ce qui court dans notre oraison, ce qui peut la bloquer ou ce qui peut l'ouvrir.
Car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment j'appelle, quand je trouve fermé.
Vous avez écouté la troisième rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Vous pouvez nous rejoindre pour ces soirées mensuelles. Écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, à commercial@gmail.com pour recevoir les liens de connexion. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel au Québec sur le site www.lecarmel.org. La poésie « Âme ne te cherche qu'en moi » de Sainte Thérèse de Jésus est mise en musique et interprétée par Frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.